Let's go, Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Automobiliste, attention, c'est autour de Limoges qu'on trouve la plus forte concentration de radars au kilomètre carré. Les gendarmes de la Haute-Vienne sont infatigables. C'est Limoges encore qui produit la plus belle porcelaine de l'Hexagone. Enfin, depuis hier soir, depuis la victoire sur les Italiens du Benetton Trévise à Athènes, les basketteurs de Limoges sont champions d'Europe.
C'était le 15 avril 1993. Le CSP Limoges devenait le premier club français, tous sports confondus, à devenir champion des champions d'Europe. Une épopée héroïque qui a marqué une époque, mais une épopée qui s'est achevée dans une atmosphère de polar politique où le tragique a côtoyé le sublime. Grandeur et décadence du basket limousin ce soir, l'histoire du cercle Saint-Pierre entre les anges et les démons. Alors, au micro d'Inter cette semaine, deux invités. D'abord, il est une icône du basket français, 18 saisons passées sous les couleurs du CSP Limoges. Il était là en 1993. Richard Dacoury, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. À vos côtés, un journaliste de Télérama, co-auteur d'un récit passionnant sur la chute du club à la fin des années 90. Livre intitulé « Bonnes vacances », François Chevalier, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Eh bien voilà, le micro fonctionne, c'est parfait. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, portrait d'N'Golo Kanté. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, le CSP Limoges, miracle en Limousin.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec une archive de 1959, année de naissance de Richard Dacoury. Et cette année-là, figurez-vous qu'on faisait découvrir aux jeunes téléspectateurs de l'ORTF le basketball, oui. Aux manettes, Raymond Marcillac, voici Sport et Jeunesse, générique.
Jeunes amis sportifs, bonsoir. Nous allons passer à notre sport, au sport que nous allons vous présenter cette semaine, qui est le basketball. Le basketball que vous allez voir, que vous allez apprendre, qui va vous être révélé par les images que nous allons vous présenter et par Claude Désiré.
Si l'on devait souligner une constante dans l'évolution du basket depuis sa création au collège de Springfield en 1891, il faudrait la rechercher dans le respect de l'adversaire. Devenant plus ardente, les rencontres semblables à ce match France-Roumanie réclament certes un engagement physique intense, mais aussi une parfaite maîtrise de soi. Or, cette maîtrise n'est conditionnée que par la répétition jusqu'à ce que l'automatisme s'en suive d'un certain nombre de gestes de base. Condition nécessaire mais suffisante, une parfaite coordination balle, jeu de jambes. L'amplitude des rebonds n'étant ici fonction que de l'amplitude de la foulée. Chaque geste, ici, traduit l'aisance, traduit l'élégance. Tout est rythme et équilibre, mais ce n'est le résultat que d'une très longue préparation auquel s'astreignent déjà les successeurs de Bernard Mayer et de Léon Toffolon sous la conduite d'André Barré. L'objectif demeure, il convient d'acquérir l'automaticité du geste.
Eh bien, c'est sur ces images de Christophe que nous allons vous laisser, jeunes amis sportifs, en vous donnant rendez-vous dans 15 jours.
Saxo et piano, sport et jeunesse, les années 50, un style, toute une époque. Autre style, le basket à Limoges, voici l'histoire du dimanche soir. Durant l'entre-deux-guerres, on l'ignore souvent, mais la pratique du basket en France fut surtout l'affaire des catholiques. Oui, pour quelle raison ? Eh bien, un sport non violent et sans contact physique. Le basket était aussi un sport amateur, donc bénédiction là aussi, puisque dénué des affaires d'argent. Ainsi soit-il. Eh bien, c'est dans cet esprit catholique que naît à Limoges en 1929. C'est dans cet esprit donc que le Cercle Saint-Pierre, le CSP, un club de basket paroissial parmi tant d'autres, naît à Limoges. Et ce n'est qu'à la fin des années 70 que la mairie de Limoges, en quête de notoriété, a investi dans son vieux club de basket. Il y avait une place à prendre en France. Limoges a senti le coup et très vite, l'affaire s'est révélée très efficace.
Le mercredi 17 mars 82 restera gravé dans la mémoire des supportrices et supporters du Limoges CSP qui viennent de prendre place dans le train vert en direction de Padoue. Ils sont 700 pour ce long voyage, 1450 km en 18 heures. Une longue nuit commence, bercée par les sons des trompettes et des chants. Pour monter une telle opération, les dirigeants du club se sont mobilisés. La SNCF a dû jongler avec les réseaux internationaux. Tout était réuni pour effectuer un très beau voyage.
On a eu le mérite de gagner devant une grande équipe. Et on l'a prouvé qu'on en était nous aussi une grande équipe. Je suis fier pour Limoges, je vais le résumer en un mot. Limoges, moi j'aime.
Vendredi, 17h45, le train vert entre en gare de Limoges. L'accueil y sera chaleureux. Ils sont venus 10 000, peut-être plus. L'histoire de cette Coupe d'Europe, telle une campagne napoléonienne, s'inscrit en lettres d'or sur la grande bible du basket. La grande aventure du CSP ne fait que débuter. Elle nous réserve sans doute encore des surprises agréables. Bravo les Verts, bravo les supporters. À très bientôt pour de nouvelles victoires.
Richard Dacoury, vous avez porté ce maillot du Limoges CSP pendant 18 saisons. C'est arrivé en 78, vous aviez 19 ans je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce club de Limoges dans votre vie, Richard Dacoury ?
Écoutez, en tout cas une partie importante de ma vie, je me suis épanoui, j'ai grandi au contact de cette équipe de basket là qui m'a tout appris, des valeurs, de rigueur, de discipline, avec des coachs plus ou moins durs, notamment André Buffière là qui m'a taillé à coups de burin pour que je devienne le joueur que j'ai tenté de devenir par la suite, et puis cette ville qui m'a accueilli à bras ouverts alors que j'étais un outsider et qui m'a adopté, qui a fait de moi un pur Limougeot.
Adopté, c'est le mot, Richard, parce que vous avez une enfance, beaucoup d'instabilité géographique. Vous avez été beaucoup, brinque-ballé.
Ouais, j'ai suivi ma mère qui allait à gauche à droite.
Qui a fui la Côte d'Ivoire aussi dans des conditions très compliquées.
Vous avez travaillé.
Oui, mais en fait, c'est important dans votre vie parce que c'est une grande stabilité, Limoges. Tout d'un coup, c'est aussi un enracinement. C'est pour vous, tout d'un coup, 20 ans d'une vie où je pose aussi mes affaires, mes bagages.
Totalement. C'était assez rassurant pour moi que d'arriver dans ce club assez paternaliste. On a entendu tout à l'heure Xavier Popelier avec sa gouaille et son humour et son sens du mot. Mais c'était ça à l'époque. Moi, j'avais besoin de ça. Je sortais des jupons de ma mère qui était tout pour moi. Et partir à Limoges, c'était partir à l'aventure, me lâcher dans le grand bain et essayer de devenir un homme comme ma mère espère que je le devienne. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par cette équipe de dirigeants qui faisait le club à l'époque.
François Chevalier, vous êtes journaliste à la Télérama et co-auteur d'un excellent livre qui s'appelle Bonnes Vacances. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Pour qu'on comprenne bien les choses, il faut rappeler à nos auditeurs que c'est que ce basket à Limoges dans les années 80-90. La ville, qui est une ville assez calme, assez paisible, s'embrase soudain quand Limoges joue au basket. C'est assez impressionnant. Ce gymnase Beaublanc est une espèce de chaudron qui tout d'un coup rentre en ébullition. On a un peu oublié ça peut-être aujourd'hui, mais à l'époque c'était incroyable.
Alors je pense que le terme de chaudron est plus approprié, là je vais parler sous le contrôle de Richard. On parle d'une salle de basket assez atypique, avec une grande charpente en bois, qui fait office un peu de caisse de résonance, ce qui fait que quand vous jouez dans cette salle, vous avez l'impression qu'il y a deux fois plus de public. Et je vous invite à regarder des vidéos des Ultra Green,
c'est
assez impressionnant, c'est assez unique. Et au-delà de cette ferveur, je crois que ce qui est important, c'est que c'est un public de passionnés. À ce titre, le pianiste de jazz, Yaron Herman, qui est un grand fan de basket, qui a enregistré plusieurs disques à Limoges, dit des supporters de Limoges qu'il voit les marchés avant les arbitres.
Qu'est-ce que ça veut dire
au même titre que les spectateurs de la Philharmonie de Paris, qui connaissent par cœur les sonates de Mozart, les supporters de Limoges connaissent les règles par cœur. Et ça, je pense que c'est assez symptomatique de ce qu'est le public de Limoges.
C'est aussi un public très divers socialement, il faut aussi le dire. Il y a la cantinière et le notaire. C'est-à-dire qu'à Beaublanc, on croise tout Limoges. Ça a drainé derrière ce club toute la ville.
Tout à fait. Je crois que le CSP, c'est un club que l'on aime de père en fils. C'est quelque chose que l'on transmet un peu comme un talisman.
Ou de mère en fille.
Ou de mère en fille, tout à fait.
Voilà.
Il y a tous les publics et il y a vous avez ceux qui ont connu l'aventure de Padoue en 82 avec la Coupe Corach, ceux qui ont connu la Coupe des Coupes à Grenoble, ceux qui ont connu 93 évidemment, ceux qui ont connu 2000. Et tout ce public-là s'échange des souvenirs et fait vivre la salle.
Richard, vous arrivez donc à Limoges en 78, vous avez 19 ans, un jeune homme qui cherche à faire sa vie. À quoi ça ressemble la vie d'un jeune basketteur français à l'époque ?
Déjà, avoir en tête qu'on n'était pas professionnel, hein. Donc moi je partais totalement à l'inconnu. Ma mère était un petit peu tremblotante à l'idée de me voir partir faire du basket, parce qu'on gagnait pas sa vie en jouant au basket à l'époque.
Dites combien vous gagnez.
À l'époque,
c'est 2300 francs par mois.
Exactement, 2300 francs, je vais être plus précis, et avec en plus 600 francs de prime d'hébergement.
Ouais. Donc j'avais 2900 francs. Hein, il y avait 2900 balles, c'est ça ?
2900 balles, exactement. Mm-hmm. Et vous avez bien bossé. Et j'étais heureux. Vous pouvez pas savoir comment j'étais heureux. J'allais à la fac. J'allais m'entraîner. Enfin, j'allais à la fac. J'y passais de temps en temps. Et j'étais libre de vivre ma passion qui était le basket, libre de vivre, de découvrir la vie tout simplement, avec bien sûr les filles, les copains. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne sortais pas en boîte très
tard. Amour et eau fraîche.
Exactement. Non, mais franchement, j'étais très naïf et très pur. Et c'était la belle vie. J'avais mon petit appartement, j'étais autonome, je mangeais beaucoup de conserves. Ma mère venait me rendre visite une fois tous les 15 jours. Elle avait du mal à pousser la porte pour entrer à l'intérieur, tellement il y avait des fringues partout. Mais elle était contente, elle repartait, l'appartement était nickel. Et j'ai adoré ce moment-là. Et à côté de ça, bon, c'est une petite ville, c'est un village, Limoges. Hein, et on se connaît tous et on prend plaisir à se rencontrer. Moi, c'est drôle de maintenant de rencontrer encore des potes de l'époque, lorsque j'avais 18 ans, qui sont maintenant, vous le disiez, notaires, bien installés dans leur vie, dans leur famille, et qui viennent encore à la salle avec leurs enfants. Mais c'est un cycle comme ça, ininterrompu, là, que l'on vit avec passion dans le Limousin. Et ça, c'est merveilleux. Et quand on est jeune, moi, je me rappelle, quand on m'a vu partir à Limoges, mes autres partenaires ou d'équipe de France, ils me disaient, mais où vas-tu t'enterrer dans ce trou, Limoges? Personne n'en a jamais entendu parler. C'était le milieu de nulle part. Hein. Rappelez-vous ce qu'ils disaient Populier, on se faisait limoger, donc c'était la pire des insultes. Hein.
Et d'ailleurs, merci de parler du middle of nowhere.
Ah, c'est ça.
Ouais, middle of nowhere, ouais, c'est ça.
Mais non, en fin de compte, c'était... Honnêtement, c'était le bonheur. Franchement, j'ai passé moi des très très belles années de ma vie à Limoges, à découvrir la vie et puis à découvrir l'amitié, à jouer, à visiter le monde entier. C'était génial.
Richard, vous êtes devenu un grand champion dans cette foulée de Limoges. Mais vous êtes intéressant parce que vous venez du sport amateur justement. Vous avez connu la mutation de votre sport. Vous arrivez à commencer avec 2300 francs par mois. Répétons-le, 2300 francs par mois. Et le basket est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, totalement mainstream. Le street basket, la NBA, c'est devenu un phénomène de société. Ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment dans les années 80 à Limoges de vivre une chose qui vous dépassait? Tout d'un coup, est-ce que vous vous êtes dit, là, on vit quelque chose d'incroyable, on était amateur, on va devenir des vedettes?
Mais vous savez, on était amateur, à Limoges, on était déjà des vedettes.
Bien sûr, bien
c'est
sûr.
Ça. Mais des vedettes oui, authentiques, au sens sûr. Où...
mais très accessible.
Mais hyper, mais toujours très accessible.
Très accessible, oui, bien sûr.
Les joueurs sont toujours très accessibles. Oui. Souvent, ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, dans une petite ville comme Limoges, c'est que c'est souvent les agents ou les gens autour qui rendent les joueurs inaccessibles. Les joueurs vont être tellement contents d'être entouré, de partager avec les supporters comme ça qui nous accompagnent et qui nous encouragent. Aujourd'hui, la vie d'un pro, d'une star, c'est compliqué avec la multiplication des réseaux, des médias, cette hyper-communication,
les pressions des sponsors.
Cette omniprésence des sponsors, mm-hmm. etc., etc. Moi, je dirais que j'ai vécu une carrière où j'ai pu évoluer, me développer à ma propre vitesse, sans aucune pression extérieure, si ce n'est celle d'un coach ou d'un public qui était devenu exigeant parce qu'on les avait nourris avec du caviar. Mais c'était une bonne pression, très saine.
Est-ce que je peux juste en placer une sur qui était vraiment Richard, à mon sens? Je pense qu'il faut resituer qui était Richard. Richard Lacoury, c'est un peu la première vedette de l'ère post-Alain Gilles. Et je pense qu'il a vraiment incarné Limoges à un moment, par son leadership, par le fait que c'était un joueur qui avait un jeu assez moderne. C'était vraiment un joueur athlétique pour l'époque. Puis c'est un palmarès exceptionnel. C'est 8 titres de champion de France, 4 Coupes d'Europe, dont la plus prestigieuse. C'est le premier capitaine d'un club français qui a soulevé la grande Coupe d'Europe.
Alors Limoges, ce club de Limoges dans les années 80, il faut dire ce que c'est aux auditeurs ce soir.
Eh bien c'est une première Coupe Corach remportée en 82 à Padoue et
c'est une Coupe d'Europe, la Coupe Corach.
Oui. Tout à fait, c'était la C3 à l'époque et les Limougeaux disent à jamais les premiers, c'est le premier club de sport français à remporter une Coupe d'Europe, ce qui déjà situe Limoges sur la carte du sport français. Il y aura un doublé en 83, puis une Coupe des Coupes en 88, le titre le plus prestigieux en 93 et donc Limoges se forge un palmarès assez exceptionnel. Je ne suis pas certain qu'il y ait un autre club de sport en France qui ait remporté autant de Coupes d'Europe. Ajouté à cela, 11 titres de champion de France.
Et oui, et une ferveur populaire, on en a parlé, incroyable dans la région. Alors au mi-temps justement des années 80, le succès et l'engouement sont tels que le Cercle Saint-Pierre Limoges casse la tirelire et s'offre du rêve américain.
Madame, monsieur, bonsoir. Les supporters du Limoges CSP vont voir évoluer cette saison l'une des meilleures équipes jamais constituées depuis que le club a accédé en National 1. C'est le président Xavier Popelier qui a fait cette déclaration optimiste en cette fin d'après-midi en présentant au Palais des Sports de Limoges la nouvelle recrue. Le voilà, Billy Knight, un pro-américain de 32 ans, mesurant 2 mètres, une bonne taille pour un ailier adroit, qui a effectué toute sa carrière professionnelle dans des équipes américaines comme Buffalo, le Celtic de Boston, Kansas City et San Antonio Spurs. Billy Knight a de belles références et 11 années en professionnel. Pour une poignée de dollars, il vient de signer au CSP.
Alors, Richard Dacoury, vous étiez là au club quand Billy Knight est arrivé. Quels souvenirs vous en avez? Et est-ce que ça vous a impressionné, vous, joueur du club, de tout d'un coup de voir débarquer des Américains de la NBA?
Non, vous savez, oui et non. Oui, parce que il arrivait tout au relais de son parcours en NBA. C'était sans doute un des joueurs américains les plus huppés à cette époque, à débarquer, à fouler donc le basket français. Mais non, parce que moi, j'ai toujours eu besoin, pour être impressionné, que la personne m'impressionne sur le terrain. Mm-hmm. J'ai besoin qu'il fasse la preuve de ce qu'on dit de lui. Et je dirais que malgré toute l'amitié et le respect que j'ai pour Billy, il n'a pas totalement répondu aux attentes,
aux désirs, aux rêves.
Exactement, parce que voilà, il nous a fait rêver avec son palmarès, en tout cas son pédigré assez fabuleux. Mais sur le terrain, il est arrivé en fin de carrière avec un problème de genou. Mais ce qu'on voyait transparaître derrière, ce qu'il était à ce moment-là, c'était le super joueur qu'il avait été lorsqu'il était en super forme. Et par moments, il avait des pointes de génie qui nous faisaient rêver. Et puis, il avait aussi cette expérience qu'il avait réussi à nous transmettre au travers des dialogues, des conversations qu'on pouvait avoir. Il était très, très bon conseil et il m'a fait progresser à son contact. Mais c'est pas forcément le joueur américain qui m'a le plus impressionné.
Richard Dacoury, à l'époque, la NBA, elle est assez fermée, voire très fermée.
Totalement.
Très peu de joueurs de l'étranger, voilà, intègrent les équipes américaines. Est-ce que c'est un grand regret pour vous, Dacoury? Parce que vous auriez eu le niveau pour jouer en NBA. Est-ce que ne pas avoir effleuré, touché la NBA du doigt, c'est un immense regret dans la carrière que vous avez eue?
Non, absolument pas. J'aurais quand même aimé parce que
un peu moi, quand même Richard.
La NBA, moi je la voyais, et faut avoir en tête que nous la NBA dans les années 80, aujourd'hui on la consomme,
oui,
sur les réseaux sociaux
quasiment quotidiennement,
en direct, tous les matchs sont... Nous à notre époque, on avait des vieilles cassettes VHS que l'on se passait sous le manteau, qui avaient 2 ou 3 mois d'actualité, qui étaient copiées des dizaines de fois, dont on voyait à travers la neige, éventuellement on entreapercevait les joueurs, mais qui nous faisaient rêver. C'était ça la NBA pour nous, donc c'était un mythe et c'était tout autre chose. Donc ça nous a fait rêver. J'aurais adoré jouer en NBA parce que c'était le plus gros championnat qui vivait à l'époque en autarcie, qui suffisait à lui-même, et j'ai jamais eu l'occasion de d'y pénétrer. Juste une petite anecdote, j'étais en équipe de France Université à peu près dans les années 89 justement, j'avais rencontré une équipe universitaire américaine, c'était Saint Nicholas State à l'époque, et j'avais fait un match de folie, un gros match très spectaculaire, un peu avec le jeu que les Américains pratiquaient avec beaucoup de dunk, etc., etc. Et on les avait battus et ils étaient restés comme ça avec des
ahuris.
Ahuris, exactement. Et avec l'envie de me voir signer dans cette université. Donc je reviens chez moi tout content avec la banane, j'en parle à ma mère qui me dit non, mon fils, n'y compte même pas, tu vas pas vivre de ça, donc tu restes faire tes études en France et tu n'iras pas
en NCAA,
mais qui était l'antichambre de la NBA, parce que le seul moyen d'y parvenir à l'époque, comme l'avait fait Detlef Schrempf, un Allemand qui était un super joueur, c'était de passer par le cursus universitaire pour pénétrer la NBA. Mais il n'y avait pas ces recrutements directs de championnat à championnat. Donc voilà mon rêve qui n'en était pas véritablement un, mais que je m'étais un petit peu acheté, qui disparaît immédiatement parce que ma mère, en bonne gestionnaire et en bonne mère de famille, a préféré me voir réussir ma vie que de partir comme ça d'inconnu et loin d'elle surtout peut-être.
Peut-être. François Chevalier, en 1991, il y a une consécration d'image pour le CSP Limoges après 10 ans sur le sommet européen du basket à la fois en France et en Europe. David Stern, qui était l'ancien patron de la NBA, NBA vient à Limoges et désigne Limoges pour un match de gala contre les Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Donc la NBA arrive à Paris pour la première fois dans son histoire, faire un match à Paris-Bercy. Et effectivement, c'est l'équipe de Limoges qui va affronter les Lakers, qui est une consécration à l'époque suprême pour ce club français.
Tout à fait. Alors c'est marrant. C'est comment dire une anecdote qui nous a été racontée par le maire de Limoges à l'époque, Alain Rodet, qui était très embêté parce que David Stern arrive à Limoges et où est-ce qu'on loge David Stern?
Eh oui.
On n'a pas d'hôtel 5 étoiles. Où est-ce qu'on va le mettre? Donc j'imagine qu'il a dû finir à l'hôtel Ibis.
Non, t'exagères.
et c'est vrai qu'à l'époque, alors pour revenir au sportif, c'était Antibes qui était champion de France. Et on pense qu'en coulisses, Didier Rose, qui était un agent assez influent à l'époque, a fait du forcing pour que Limoges puisse affronter les Lakers. Et donc, Richard se retrouve à jouer contre Magic, donc à Bercy en 91.
Richard, quel souvenir de ce match à Bercy, 18 octobre 91.
Exact.
Limoges CSP, Los Angeles Lakers avec Magic Johnson.
Avec Magic Johnson, extraordinaire.
Quel souvenir, Richard Lecoury.
D'abord, imaginez-vous prendre un tsunami sur la tête, là, qui vous a totalement renversé et faire des X tonneaux parce qu'en fin de compte on a pris une grosse claque avec ce jeu façon Lakers qui était une déferlante en permanence de super attaquants menés de main de maître par Magic, avec un Magic rayonnant, tout sourire, tout dedans dehors, et qui était sans doute le plus grand ou le plus beau communicant que la NBA n'ait jamais porté. Et nous, petits Français qui avions humblement l'envie de bien figurer face à ce monstre. On n'avait pas cette agressivité saine qu'ont les jeunes aujourd'hui lorsqu'ils rencontrent les Américains, à savoir ils ont la ferme intention de débattre. Nous, on était juste là pour faire bonne figure. Un peu la française avec la mentalité française de l'époque. Bon, on va essayer de pas perdre trop.
De pas être ridicule.
Voilà, pas être ridicule. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, ils veulent gagner absolument. Et on avait, je me rappelle, bon, on en discutait avec mon coéquipier et ami Frédéric Forté, qui faisait partie de l'équipe, et on s'était tous rassemblés. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire demain contre les Lakers? Et chacun y allait de l'envie de faire un alley oop sur machin, de piquer une balle à Magic Johnson, de marquer un 3 points sur la tête de AC Green. Voilà, chacun avait son petit programme personnel. Et en fin de compte, le lendemain, on a tous coché nos cases et on était très contents. On en a pris 30 dans la musette ou plus, mais je dirais l'honneur était sauf et chacun est reparti avec son souvenir. Mais c'était merveilleux. À côté de ça, moi, c'était la NBA comme on l'imaginait, ce rouleau compresseur avec cette maestria et puis ce côté un peu euphorique et
ce plaisir du jeu
spectaculaire et toujours porté par ce Magic qui pour moi est un formidable ambassadeur du jeu américain.
Et je pense que ça illustre bien l'importance du CSP à l'époque.
Et oui.
qui affronte les Lakers, c'est Limoges.
C'est le cercle Saint-Pierre de Limoges, en effet. On va faire une pause musicale avec Baccar, rappeur londonien, un cool kid. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, First Time. All the time until I fell into you.
Né en Côte d'Ivoire il y a 25 printemps, Richard Dacoury est arrivé en France à l'aube de 1965.
Philippe Collin.
Ses premiers pas de basketteur se sont effectués à Reims à l'âge de 15 ans. Il joue ensuite sous les couleurs de la Croix-Rousse Lyon, où il fait la connaissance de Jeff Dubreuil. C'est ce dernier qu'il fait signer au Limoges CSP en 1979. La réputation de Richard Dacoury, qui vient de faire un retour en équipe tricolore, se situe notamment dans ses matchs et dans sa parfaite entente avec Jean-Michel Sénégal. L'avenir du jeune ailier bondissant au sein du club de France semble désormais assuré.
Sur France Inter.
Richard Dacoury, icône en Limousin, le Dac. Ce fut son surnom, a porté le maillot du CSP Limoges pendant 18 saisons. Ce basketteur hors pair de grand style, avec sa gueule d'acteur américain, fut le preux chevalier de toute une ville, et plus encore, lorsqu'au printemps 1993, il fut l'un des héros de la quête ultime. Le CSP Limoges fut sacré champion des champions européens.
Et à la demande générale, pour terminer ce journal, on réécoute un document 100% service public qui pourrait s'intituler « Le feulement du reporter heureux ». C'était hier soir, les dernières secondes du match de basket Limoges-Trévise avec, en soliste, Pascal Pirozzi.
Limoges a gagné ! Limoges, champion d'Europe des clubs ! C'est fabuleux ! Limoges a gagné le championnat d'Europe des clubs en battant Trévise 59-55. C'est formidable pour Limoges. Super petit club face à l'équipe de Trévise. Je vous prie de croire qu'on a tous les larmes aux yeux ici. C'est fabuleux pour cette équipe de Limoges qui vient de remporter ce Final Four. C'est fabuleux.
Pas d'un feulement.
C'est un vrai feulement.
Incroyable.
Richard Dacoury, c'était la folie, la magie, l'éternité. Ce titre en 93, c'était irréel aussi pour Limoges de décrocher le toit du monde.
Ah bah c'était inimaginable. Et la manière dont on l'a fait avec cette atmosphère qui s'était créée autour de cette équipe, on était vraiment dans une petite bulle à l'écart de tout, avec une confiance en nous qui avait été installée par un coach qui s'est transformé pendant 4 jours en un mage extra lucide et papa poule pour ses joueurs qui le caressait dans le sens du poil alors que habituellement il nous faisait vivre le martyr sur le terrain, etc. Avec tout le travail qu'on avait fait en amont, on était capable de faire tomber n'importe qui.
Alors là, c'est l'acmé. On est au sommet, 1993, c'est le titre européen. Votre livre commence là, François Chevalier, Bonnes Vacances, aux éditions Entorse. Il commence là parce que vous dites, vous, en introduction de ce livre, que c'est le début de la fin, entre guillemets, mais vous amorcez ça comme peut-être tout doucement cette mécanique infernale qui va s'emparer du club. Que se passe-t-il à ce moment-là?
C'est pas la fin du club, je pense que c'est la fin d'une période dorée pour le club. C'est une chose d'arriver au sommet, c'est encore plus dur d'y rester.
Rodet, le maire de Limoges, dit en 93, si on était raisonnable, on arrêterait tout maintenant.
Alors c'est terrible de lucidité de dire ça.
Ben oui.
Parce que je pense que dans le fond, il a peut-être raison. Mais en même temps, je pense que les dirigeants limougeois ont envie d'y croire, ont envie de conserver Limoges au plus haut niveau européen, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les plus grandes équipes perdent. Barcelone perd à Limoges, le Real Madrid perd à Limoges. Le président, donc historique du club, Xavier Popelier, va prendre du recul, et c'est le début d'une période où les dirigeants vont se succéder, il y a beaucoup de remplacements également dans l'équipe, et c'est peut-être plus difficile de s'inscrire dans la durée, et à partir de ce moment-là, ça va être aussi le début des problèmes financiers, et le club va avoir du mal à boucler son budget tous les ans.
Mais Richard Dacoury, est-ce que vous avez senti, vous, ça, à ce moment-là? Est-ce que quand on est champion d'Europe, qu'on arrive de Limoges, est-ce qu'on perd un peu pied? Pas vous forcément, mais est-ce que la ville perd pied? Est-ce que le staff perd pied? Est-ce que les salaires flambent? Est-ce que tout d'un coup on était à 2300 francs? Est-ce qu'on passe à 200 000 francs? J'en sais rien, mais est-ce que tout d'un coup, est-ce que ça ne dévisse pas un peu dans la tête des joueurs et des dirigeants quand on est arrivé aussi haut?
Dans la tête des joueurs, je ne pense pas. C'est vrai qu'on entre dans une spirale, dans un tourbillon comme ça qui est censé vous tirer vers le haut, mais qui peut très bien aussi vous tirer vers le bas, parce que lorsqu'on ne maîtrise absolument plus rien, ce qui devenait le cas, on essayait de jouer dans la cour des grands et on n'avait pas forcément les structures ni les moyens. Mais avaient-ils le choix à l'époque, ces dirigeants, que de tenter d'abonder justement à toutes les demandes et toutes les exigences que cette position sur le monde d'Europe requiert? Donc c'était compliqué. Et moi, je n'en veux pas, mais ils se sont fait prendre par ce piège infernal qui est de jouer avec... ils se sont brûlés les ailes, tout simplement, hein, en tentant d'atteindre le soleil. Ils se sont brûlés les ailes et ils sont retombés assez violemment. Mais Je ne leur veux pas parce qu'ils n'avaient pas franchement le choix. Vous disiez, est-ce que ce n'aurait pas été mieux d'arrêter là? C'était pas possible.
Non,
vous
non.
auriez été dirigeant à l'époque, vous auriez fait comme eux, vous auriez tenté de trouver les solutions et les solutions n'étaient pas forcément les bonnes.
Ce coach qu'on évoquait il y a quelques instants, Maljkovic, a dit le succès, c'est le cimetière des équipes moyennes.
Oui.
C'est là aussi très lucide, malheureusement. C'est vrai que tout d'un coup, ce succès en 93, il est trop gros pour Limoges.
Et surtout, vous le disiez, on est arrivé très très vite, mais de rien, on est devenu du jour au lendemain champion d'Europe. Et honnêtement, avec le recul, maintenant, en étant que dirigeant du Limoges CSP aujourd'hui, je me rends compte que ce club a gagné pendant très très longtemps. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce club, c'est que cette durée dans l'excellence, sans véritablement en avoir les structures, sans avoir véritablement les reins assez solides pour pouvoir supporter éventuellement une ou deux ou trois années de vache maigre. Et derrière, tout s'est écroulé avant de redécoller, parce que ce qu'il faut retenir à Limoges, c'est qu'il y a une énorme envie, il y a un capital public, un capital supporter qui fait de ce club ce qu'il est aujourd'hui, un club exceptionnel et hors norme.
On va y revenir à aujourd'hui. Juste revenons quand même deux secondes aux années 90, François. Effectivement, il va y avoir un moment très compliqué à la saison 99-2000, parce qu'il y a des problèmes évidemment d'argent, des problèmes de structure, des problèmes de dirigeants. Il y a un personnage dans cette histoire qui s'appelle Didier Rose, qui est donc l'agent de tous les joueurs. Il a un rôle très important à la fin des années 90 au Cercle Saint-Pierre. Qui est-il, cet homme, et qu'est-ce qu'il incarne?
Alors c'est effectivement un agent extrêmement influent. À l'époque, c'est l'agent numéro un du basket français, qui est légèrement sur le déclin à la fin des années 90, mais qui a eu un portefeuille de joueurs assez exceptionnel, avec les plus grands internationaux, quelques grands joueurs américains, qui fait un peu la pluie et le beau temps dans le basket français. Ouais, il négocie aussi les droits TV.
Une sorte de Don King un peu du basket français.
Ouais,
hein.
Il défaisait les équipes en fait.
Voilà. Hein. Entre Don King et, comment dirait, Tom Selleck.
Voilà, oui, il ressemble beaucoup à Tom Selleck, une sorte de magnum un peu. Hein,
voilà. En plus qu'il aimait les gros cylindrés, donc voilà. C'est vrai que bon, quand vous roulez en cabriolet à Limoges, ça se remarque peut-être plus qu'ailleurs.
Okay.
Et au-delà de ça, il a un rôle qui est tellement important, tellement influent, qu'au sein même du club, il prend de plus en plus de place. Encore une fois, avec le retrait de Xavier Popelier et de Jean-Claude Beaujou, et au point où, en fait, à l'époque, la justice va commencer à s'intéresser aux comptes. Et ça commence à être un petit peu compliqué pour le club à l'époque, puisque on lui reproche d'être dirigeant de fait, ce qui est formellement interdit à l'époque.
Racontons le droit à l'image, hein, ce que tout le monde évoque aujourd'hui, le droit à l'image, qu'on a appelé le droit à Limoges d'ailleurs après. C'est lui qui a mis ça en place, parce qu'il fallait effectivement alléger la masse salariale du club, parce que la mairie...
Les charges, parce que la mairie
voulait aussi dire, voilà, Limoges c'est magnifique, mais on ne peut pas non plus mettre tout le budget de la mairie pour Limoges, mais il y avait des salaires de joueurs qui étaient assez conséquents, et donc ce Didier Rose a mis au point, avec une société qui s'appelle ISB, je crois, un système
un peu de magouille, quoi. De double commission qui lui a été reproché, et c'est, voilà, c'était au cœur effectivement de l'affaire des comptes du CSP, et c'est aussi pour ça que Didier Rose, au terme d'une longue procédure, a fini en prison.
Et oui, évidemment. Et donc, en 99-2000, le club est très très mal en point, Richard, mais il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'on est au point d'un club qui est en train de mourir d'un point de vue structurel, sociétal, enfin social, on va dire. Mais que se passe-t-il sur le parquet de cette équipe en 99-2000, Richard Dacour?
C'est marrant, j'en parlais avec François tout à l'heure avant de rentrer dans le studio, c'est que moi, à cette époque-là, il faut savoir que je suis parti de Limoges en 96 pour rejoindre le PSG Basket, et je ne suis pas parti en bon terme, pour des raisons diverses. En revanche, j'ai vécu l'épopée de Yann Bonato et consorts à l'époque.
Bonato, c'était le grand leader de Limoges à l'époque.
Qui est devenu leader de cette équipe-là, alors qu'il c'était un joueur assez individualiste, mais qui s'est transformé dans la difficulté en un capitaine courageux, fédérateur, etc. Et il a porté ce projet, et il est sans doute le fer de lance de cette réussite qui est extraordinaire, parce que à aucun moment on n'aurait pu imaginer que dans cet univers professionnel, des joueurs puissent faire les efforts qu'ils ont faits pour survivre, tout simplement.
François.
Alors, comme le dit Richard, effectivement, ce qui rend l'épopée encore plus belle, c'est qu'elle est accomplie dans un contexte chaotique où le club est sur le point de disparaître. Et dans ce contexte-là, les joueurs acceptent de baisser leur salaire, ce qui, dans le monde du sport professionnel, est peut-être une première d'ailleurs. Et donc, ils accomplissent un formidable triplé sur les...
Incroyable, hein. Championnat, Coupe d'Europe. Alors que le club est en train de mourir, et il ramasse toute la mise.
Et tout cela dans une ferveur absolument exceptionnelle à Beaublanc. On voit des banderoles apparaître. Si le CSP meurt, Limoges aussi. Ce qui donne aussi, ce qui illustre aussi l'importance du club dans la ville de Limoges et même dans la région Limousin. Et donc, Yann Bonato décide, lors d'une réunion avec ses coéquipiers, de baisser les salaires. Ça, c'est quand même...
Ouais. Il arrive à convaincre ses coéquipiers de baisser leur salaire de plus de 30%, donc c'était assez colossal.
Alors qu'en même temps, vous avez une partie des dirigeants qui sont en garde à vue. Didier Rost qui est placé en...
Détention provisoire.
Tout à fait, qui est placé en détention provisoire. Donc voilà, on est dans un...
C'est un navire sans capitaine,
oui,
mais l'équipage tout d'un coup devient... transcende la situation.
Ça dépasse le basket, ouais. on n'est plus dans le basket, on est dans un polar.
Est-ce que raconte le livre, pourquoi ça s'appelle Bonnes Vacances, François alors Chevalier?
Justement, il faut rendre hommage à Yann Bonato, c'est une phrase, ce sont des mots qu'il a prononcés après avoir reçu le trophée du championnat de France, donc à Villeurbanne. Il a eu cette phrase assez définitive, Limoges et l'équipe de l'année, Bonnes Vacances, sous-entendu...
salut.
Voilà. Et puis, Bonnes Vacances... à nos chers détracteurs, qui pendant l'année n'ont pas oublié de dire que Limoges avait eu des problèmes financiers et qu'ils n'auraient peut-être pas dû terminer la saison.
Alors, malgré ce triomphe sur le parquet de ces trois titres remportés, ça ne suffira pas. Limoges va aller de mal en pis jusqu'à retomber en division amateur. On a cru que le club allait mourir. Comment va le club? Comment va le Limoges CSP en 2021?
Alors justement, après un retour au premier plan au début des années 2010...
Donc il y a une dizaine d'années à peu près.
Donc le club a remporté un superbe doublé en 2014 et 2015 sur les épaules d'Adrien Moarmont, qui était le capitaine emblématique de l'équipe à cette époque-là. Et on va dire que là, le CSP est plutôt dans une phase de transition, avec des résultats qui sont assez loin du standing, on va dire, des années 80-90. Mais c'est une phase de transition un petit peu obligatoire à la suite de la disparition tragique de Frédéric Forté en 2017. Il y a inévitablement...
Céline Forté, qui était donc son épouse, est aussi là, c'est l'avant-garde de Limoges. C'est la première et la seule femme qui dirige un club professionnel de sport en France. Il faut quand même le dire. C'est vrai, Richard.
Il n'y a pas une.
Je crois que c'est la seule. Peut-être que je me trompe.
Au club de volley de Cannes, peut-être.
Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Mais en tous les cas, vous êtes revenu, à Limoges.
Moi, je suis revenu à Limoges pour.
Sur la demande de Céline Forté.
Exactement.
Comment vous voyez l'avenir de ce club qui est si cher à votre cœur, Richard Dacoury?
L'avenir proche déjà, on vit pratiquement au jour le jour aujourd'hui, on vit chaque match comme une victoire lorsqu'on l'emporte, parce que on doit lutter contre une situation qui est pas si évidente au-delà de la crise du Covid qui met tous les clubs un peu sur les ténoirs. Nous, on sort d'une période avec une direction précédente qui a rendu le club exsangue, qui l'a dépouillé de tout son trésor de guerre et dont on a hérité avec Céline, et pour lequel on doit maintenant travailler d'arrache-pied pour le maintenir vivant le propulser sur le troisième millénaire avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles structures. Mais là, la crise de Covid nous a percuté de plein fouet et a interrompu un peu tous ces beaux projets de développement. Mais on désespère pas si on arrive à sortir de cette situation et cette période particulièrement trouble. Mais notre capital, et ça, on en a totalement conscience, c'est cette ville, ce club et ses supporters qui s'associent à ce club et qui font partie intégrante de la moelle, du cœur et l'âme de ce club.
François Chevalier, le mot de la fin, qu'est-ce qu'il incarne Dacoury dans le basket français aujourd'hui?
Attention à ce que tu dis, François.
Je pense qu'il incarne une certaine image du basket français des années 80, mais surtout une image du basket qui gagne. Je pense que Richard, plus que tout autre joueur, peut-être à l'instar d'Apollo Faye, de Jean-Michel Sénégal, de Michael Young, de Joris Dovtch, il a incarné le Limoges qui gagne. Et ça, c'est quelque chose de rare, de précieux dans le sport moderne, et quelque chose de très fort.
Merci à vous deux d'être venus ce soir.
Merci
au micro d'Inter. Vous pouvez retrouver la folle aventure du CSP Limoges dans ce livre très enlevé. Bonnes Vacances, c'est le titre. Un récit signé François Chevalier et Jérémy Lebescon, disponible aux éditions Entorse. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci Philippe.
Salut. I'm not afraid to die. Tes cheveux, une chanson signée Junior. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année, ce soir, un métronome. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors de qui allons-nous parler ce soir ?
Eh bien, je vais essayer de vous le faire deviner, Philippe.
Allez-y.
Fermez les yeux. Je vous transporte 2 ans et demi en arrière, c'est-à-dire dans notre époque covidée, il y a une éternité.
Oui.
Le Stade de France était plein. Les spectateurs communiaient avec l'équipe de France de foot qui faisait un tour d'honneur pour fêter son titre de champion du monde acquis 2 mois plus tôt. Quand soudain, le défenseur Benjamin Mendy a saisi le micro pour entonner un chant connu de tous les supporters des Bleus.
Il est petit et gentil, à stopper Léo Messi. Et on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté.
Alors j'en déduis que vous allez nous parler d'N'Golo Kanté.
Oui, parce que l'équipe de France affronte l'Ukraine mercredi. Parce que ce milieu de terrain défensif va fêter ses 30 ans, le 29 mars, et parce qu'il a inspiré un nombre considérable de chansons, dont ce fameux détournement des Champs-Élysées de Joe Dassin, qui célèbre la facilité de Kanté à annihiler ses adversaires et sa tendance à tricher aux cartes.
Mais est-ce que l'intéressé a apprécié cette chanson ?
Alors, un jour, Kanté a mis sa timidité maladive de côté pour expliquer qu'il n'aime pas trop ce chant aux paroles soi-disant mensongères parce qu'en réalité, il ne tricherait pas aux cartes. Il ajoutait ne pas comprendre pourquoi les gens lui accolent de fausses réputations. Alors on pourrait peut-être l'expliquer par le décalage qui existe entre l'activité folle que démontre Kanté en match et sa volonté, hors des terrains, d'être le plus discret possible. Résultat, les nombreux admirateurs de ce joueur en sont réduits à projeter des fantasmes sur une personnalité mystérieuse.
Et donc ce phénomène s'est traduit en musique.
Exactement. Écoutez par exemple ce morceau interprété en 2017 par le comédien anglais Matt Hudson sur la chaîne Sky Sport. Ce titre met en scène un supporter de Leicester qui ne s'est pas remis du départ de Kanté de ce club l'année précédente. Hudson chante cet épisode comme s'il s'agissait d'une rupture amoureuse.
You got till it's gone, go back in time. I feel so forlorn. I think about you every day. Oh, N'Golo Kanté, N'Golo Kanté. Every day I wish that you'd stay. Oh, N'Golo Kanté.
Il n'y a donc pas qu'en France qu'on vante les mérites de Kanté en musique, Pierre-Étienne.
Figurez-vous que j'ai même trouvé un rappeur colombien nommé Carlito Brigante qui, dans une chanson de 2019, racontait son quotidien violent à Bogota, dont il souhaitait s'extirper, je cite, « avec le couteau entre les dents, comme celui qui fait le sale boulot sur le terrain », N'Golo Kanté.
Maradonita continúa pese a la patada, eres leyenda, pero el pase al medio era la jugada pa. Voy buscando la clara, más que la brillante. Voy por el balón, pero con el cuchillo entre los dientes. El del trabajo sucio, N'Golo Kanté. Déjame pongo el guante, pulcros para el fin delincuentes. Hey. Déjame pongo el guante, pulcros.
Et alors, est-ce qu'en 2021, Kanté continue d'inspirer des chansons?
En lisant récemment Les Inrecuptibles, je suis tombé sur une chronique dédiée au premier album d'un groupe de pop français, City Band, dont un des titres se nomme N'Golo Kanté.
Dingue.
Un morceau assez étrange dans lequel le milieu de terrain est devenu l'incarnation d'un individu anonyme, perdu dans la foule, qui semble s'épanouir en vivant un quotidien répétitif.
Cette foule si dense, s'habiller, faire tomber, s'écarter, ramasser. Ce carnet, N'Golo Kanté.
qu'au final, Kanté a généré une grande diversité musicale, de Joe Dassin donc au rap colombien en passant par cette pop à guitare.
Oui, et on pourrait en tirer la conclusion suivante. Moins les stars de foot parlent, plus on chante leur mérite.
Eh bien voilà qui mérite réflexion. À la semaine prochaine, Pierre-Etienne.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 28e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté ce soir à la technique de Pierre Faucillon. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds. Et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve dimanche prochain. Rendez-vous bien sûr à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.